Ça me fait toujours du bien. En 1986, j'étais à Paris, j'habitais à Paris, à côté du stade de Bercy. Et il y a un Américain qui a pris l'avion. Il est venu me voir à Paris. Il m'a fait un très beau cadeau. Je dirais le plus beau cadeau que le monde peut recevoir. Et le cadeau, je l'emmenais avec moi. Alors c'est pour ça que je lui ai préparé un petit support pour vous le montrer. Alors rassurez-vous, je l'ai déballé depuis. Hein. Mais j'ai gardé quelques petites choses. Voilà. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie. Et chaque fois que je l'ouvre, je réalise combien ce cadeau il est extraordinaire et combien il me fait du bien. Et je voudrais vous... Est-ce que vous avez le même, au fait? Vous avez le même? Oh, c'est bizarre, ça. C'est l'Américain aussi qui vous l'a donné? On a reçu un merveilleux cadeau, extraordinaire, et je voudrais ce matin le mettre à l'honneur, ce cadeau. On parle de chemin, on parle de marche avec Jésus, on parle de lumière. On a besoin de ce cadeau pour nous éclairer. Alors bien sûr, le titre de mon message, c'est « Un merveilleux cadeau ». Plus que toute autre chose, notre génération, je pense que vous êtes d'accord avec moi, a besoin de la parole de Dieu. On s'en rend compte, jour après jour, que l'humanité tout entière a besoin de ce cadeau. Nous vivons dans un monde qui va vite, très vite, qui n'a jamais le temps. Nous vivons dans un monde où il n'y a pratiquement plus de repères. Les choses matérielles ne pourront jamais remplacer la fin de la parole de Dieu. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. En cherchant notre nourriture dans la parole de Dieu, nous pouvons découvrir celui qui nous aime, qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, par son sacrifice à la croix. Nous découvrons aussi dans cette parole l'époux de l'Église, qui est Jésus-Christ. Jésus va déclarer lui-même dans cette parole, dans ce cadeau, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Parfois, je m'arrête à plusieurs reprises sur ce beau cadeau en me répétant cette phrase. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bon sang. À côté de tous les livres qu'il peut y avoir dans toutes les bibliothèques du monde entier, c'est là, c'est le livre unique. C'est la parole d'en haut. Le pain, c'est encore meilleur quand on le mange. La parole de Dieu qui nous est révélée et qui nous révèle Jésus-Christ doit devenir notre nourriture au quotidien. Je dirais notre pain quotidien, comme on le dit dans la prière. Je vais vous parler d'un autre personnage dans l'Ancien Testament aussi, c'est Élie, le prophète. Élie s'est enfui, il a marché pendant une journée, il était blasé, fatigué, il en avait marre, il s'est assis au pied d'un arbre et il s'est endormi. Et un ange, l'ange de l'Éternel, le touche, le réveille. Et quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une pierre chaude, et sur cette pierre, un gâteau et une cruche d'eau. Et l'ange de l'Éternel lui dit, ben mange, tu as besoin de prendre des forces. Un peu comme les poissons. Il ouvre les yeux et tout est prêt. Après ça, il se rendort. Une seconde fois, l'ange le réveille et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin va être long. Élie a mangé, s'est levé, il s'est mis en marche. Et vous savez combien de jours il a marché ? Alors, je ne sais pas ce qu'il avait mis dans le gâteau là. Combien de jours il a marché ? Est-ce que vous savez combien de jours il a marché ? 40 jours et 40 nuits. Oh punaise. Qu'est-ce qu'il a mis dans le gâteau ? Élie a vécu des miracles extraordinaires. Il a vu des choses extraordinaires de la part de Dieu. Le feu est descendu du ciel sur sa parole. Après 3 ans de sécheresse, la pluie est tombée après sa prière. Élie a vu des choses extraordinaires. Mais les miracles ne remplacent pas la nourriture. Même si les miracles nous émerveillent, ils sont extraordinaires, ils nous émerveillent, ils ne remplaceront jamais la nourriture de notre âme. Rien ne remplacera la parole de vie. Dans l'évangile de Marc, Jésus se fait du souci pour la foule qui est là et qui n'a pas mangé. Pourquoi Jésus veut-il nourrir cette foule ? La Bible nous dit que Jésus est ému. Il est ému de compassion pour cette foule. Si je les renvoie à jeun, il va leur manquer de la force. Et surtout que parmi eux, beaucoup sont venus de loin. Jésus connaît le chemin qui nous attend. Il sait qu'il est long et quelquefois il est difficile. C'est un long chemin. Il sait aussi ce qui donne la force spirituelle qui nous permet d'aller le plus loin possible pour avancer sur ce chemin vers la vie éternelle. Alors, il veut nous nourrir de ce bon pain, de ce pain de vie. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais plutôt un miroir qui renvoie notre image. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Vivante et efficace. Elle juge les sentiments des pensées du cœur. Dans les psaumes, le premier psaume, il nous est dit ceci, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. » J'essaie d'attribuer quelques qualificatifs concernant la parole de Dieu. J'en ai mis 8, mais il y en a certainement bien plus. J'ai mis parfaite, véridique, droite, limpide, pure, vraie, précieuse, douce. Cette parole, elle a des conséquences sur l'homme. Magnifique, super, extraordinaire. Elle a des conséquences. Elle restaure l'âme. Elle rend sage le simple. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. On a chanté des chants, ta lumière. On a besoin de la lumière. Elle nous aide à être juste. Par ses révélations, la parole de Dieu nous conduit aussi et surtout à la repentance et bien sûr à la prière. Elle fait des choses extraordinaires dans notre vie. Elle nous amène là où Dieu nous attend. Plus nous la lisons, plus nous sommes penchés dessus, plus nous la méditons, plus elle nous conduit là où Dieu nous veut. La parole de Dieu est aussi pleine d'enseignements et d'instructions. On distingue dans cette parole un esprit d'amour et de sainteté qui touche le cœur. Amour et sainteté qui touche le cœur. Cette parole proclame la volonté de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est qu'il le craigne, qu'il le respecte, qu'il le vénère, qu'il l'adore, comme on l'a chanté tout à l'heure. Oui, je t'adore. Tous les qualificatifs attribués à la parole de Dieu révèlent la nature et le caractère de Dieu, tandis que les effets de la parole de Dieu révèlent ce que Dieu fait en faveur de sa créature, l'homme. Lorsque celle-ci accepte simplement, humblement, de l'entendre, elle ne nous donne pas des avantages, forcément en nature. Elle ne nous donne pas des avantages matériels, mais des bienfaits intérieurs, bien plus précieux, plus agréables. La consolation et la consolidation de notre personne. La sagesse, la joie, le discernement spirituel, la stabilité, l'assurance de la justice. Celui ou celle qui écoute cette parole trouve la joie et la récompense. Joie et récompense. En l'observant, en la pratiquant, sans attendre un salaire en retour. La parole nous permet aussi d'entrer en nous-mêmes, de demander pardon pour nos fautes involontaires ou volontaires et d'obtenir la paix du cœur. On peut reconnaître aussi au terme de notre prière, de notre méditation, quand Dieu seul se trouve, l'écoute, le secours, la stabilité, à l'image du rocher. Le salut, la délivrance, à l'image du Rédempteur. Il est important pour nous, bien sûr, d'expérimenter les effets de la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Cherchons dans la Bible à mieux connaître Dieu en nous soumettant à ses instructions. Cette parole de Dieu, elle est précieuse. Obéir au Dieu de la Bible apporte joie et paix. Est-ce que tout va bien? Vous arrivez à me suivre? Il est important, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, de redonner à la parole de Dieu ses lettres de noblesse. Et je crois que le Seigneur en sera honoré. Je vous ai envoyé un courrier, l'avez-vous lu? Si vous ne l'avez pas lu, on ne se connaît pas. Si vous l'avez lu, on se connaît. Est-ce que vous êtes informé de ce que je vous ai envoyé? Voilà. Je vous invite cette semaine à lire le psaume 119. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans ce psaume 119. Je ne vais pas vous lire le psaume 119. Vous savez que c'est le livre le plus long de toute la Bible. Il est important de prendre du temps pour le lire. Et vous avez la semaine, vous le coupez en 5 jours ou en 6 jours. Voilà. Et puis vous le lisez. Et dimanche, vous terminez par les derniers versets. Le psaume 119. L'écrivain témoigne de la considération sans borne qu'il porte à la loi de Dieu et des nombreux bienfaits qu'elle lui procure. Et moi, j'en veux aussi des bienfaits, donc il faut que je me plonge là-dedans. Dans la première partie, le psalmiste engage sa foi. Pour lui, les commandements de Dieu sont justes, équitables, tous sans exception. Ils sont fiables, vrais, immuables, établis à jamais. La Bible a fait ses preuves au cours des siècles et son auteur, Dieu lui-même, a toujours honoré ses promesses. Pour nous aussi, elle est un fondement solide. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu car il ne change pas. Sa parole dure à toujours. Le psalmiste continue. Il y manifeste aussi son amour. Le psalmiste déclare « J'ai une vraie passion pour tes commandements. » Il aime profondément la parole du Seigneur. Il la considère même plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Ce bien inestimable fait ses délices. Et ils font aussi la joie de son cœur. Et pour nous, est-ce que nous arrivons à en tirer les mêmes plaisirs? Est-ce qu'à nos yeux, cette parole surpasse tous les trésors? Et le psalmiste va continuer et il va aussi y consacrer de la méditation. Il est amené à considérer toutes ces merveilles. Il ressasse sans cesse les conseils divins. Il ressent le besoin d'être enseigné. Il demande même à Dieu de l'intelligence pour comprendre ses ordonnances. Je pourrais le dire, ne nous contentons pas le dimanche d'ouvrir la Bible, seulement le dimanche. Ouvrons-la aussi dans la semaine. Et le psalmiste va continuer. Et là, il va se donner dans l'obéissance. La part qui lui revient, c'est de se conformer à ses ordonnances. Il ne les oublie pas. Il est résolu. Il s'engage. J'ai pris la décision d'obéir à tes lois, à tes commandements, pour toujours. Son obéissance est immédiate et totale. Il y a un mot qui est souvent utilisé dans les médias, c'est celui d'allégeance. Beaucoup de musulmans ont fait allégeance à Daesh, ou Daesh, comme dit le président de la République, qui nettoie plus blanc que blanc. Notre allégeance, c'est plutôt à Jésus. Oui, notre allégeance à Jésus passe forcément par l'obéissance. L'obéissance à ses commandements. On peut retrouver ça dans l'évangile de Jean. Ce psaume est magnifique. Il conduit l'auteur même à prendre conscience de sa faiblesse face aux exigences divines. C'est pourquoi, quand vous lirez ce psaume, vous pourrez aussi y constater et voir la prière est omniprésente dans le texte. Je vais conclure par deux choses. Je voudrais vraiment que vous réalisiez ce matin, que vous repartiez avec ça, quel cadeau j'ai. Oh là là, extraordinaire, magnifique. Je veux vous lire une prière. Après cette prière, je vais demander à Martine de vous passer une petite vidéo de 3 minutes. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on la passe 2 fois même, cette vidéo. Je vais lire la prière. Ma prière pour aujourd'hui. Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur ta parole. Nous pouvons nous fier à ta parole. Tu accomplis toujours tes promesses. Et nous voulons l'apprécier à sa juste valeur. Apprends-nous à la méditer. Qu'elle façonne notre vie pour ta gloire. Aide-nous à obéir à tes instructions. Seigneur, tu nous as fait un merveilleux cadeau. Merci. La vidéo, vous allez voir, n'est pas en français. Ça se passe dans un pays d'Asie. Regardez bien cette vidéo. Si on peut la passer 2 fois, que vous repartiez avec, et que ces images que vous allez voir, vous les aurez tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse.